VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 15h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal RDC. Plus d'un mois après le décès du leader du rassemblement de l'opposition Étienne Tshisekedi à Bruxelles, sa dépouille continue à être au centre d'une polémique dans son pays natal. Le frère cadet du défunt, Mgr Gérard Moulumba, explique pourquoi le site retenu pour la dernière demeure du disparu n'a pas eu l'assentiment de tous.
J'ai trouvé qu'à Kinshasa, la base du parti, le parti de l'UDPS, et même tout le monde, pratiquement, je n'ai vu personne qui dit que cet endroit convient pour l'immersion. Donc, tout le monde était contre. D'ailleurs, moi-même, j'étais menacé parce que c'était moi qui avais fait la libération de Bruxelles. Alors, il disait qu'il n'était pas du tout d'accord, il faut absolument changer de place. C'est-à-dire que j'ai appelé l'autorité de la ville, à qui j'ai exprimé cela, que la famille adhère à cette opinion, qu'il faut trouver une autre place. Mais nous attendons le retour du gouverneur, qui va arriver peut-être aujourd'hui ou demain, paraît-il, à Kinshasa. Alors nous allons de nouveau rediscuter d'une autre place. On ne peut pas maintenir la même date, non.
Le frère cadet d'Étienne Tshisekedi, Mgr Gérard Moulumba, évêque de Mweka, dans le Kasaï, en RDC. La situation au Burundi a fait l'objet d'une discussion hier au Conseil de sécurité de l'ONU. Jamal Ben Omar, conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies, a souligné à cette occasion la fragilité de l'environnement sécuritaire dans le pays, le chômage endémique et la détérioration de la situation humanitaire. Mais l'ambassadeur du Burundi à l'ONU, Albert Shingiro, a tenu à relativiser les faits. On l'écoute.
Je ne dis pas que tout est parfait au Burundi, mais je dis que nous avons enregistré des progrès tangibles en matière des droits de l'homme, mais que nous avons encore quelques défis à relever. Le meilleur moyen, ce n'est pas de continuer à mettre des pressions politico-diplomatiques sur le gouvernement du Burundi. Nous sommes sous pression depuis 2015. C'est le moment de tourner la page et de commencer de regarder devant nous et pouvoir effectivement évoluer en matière de protection des droits de l'homme. Donc nous sommes très engagés, nous attachons une grande importance à la question de la protection des droits de l'homme, mais certains cas ont été vraiment gonflés, exagérés. Je donne cet exemple des cas de disparition forcée. Vous savez, c'est un phénomène global qui touche pratiquement tous les pays, mais quand ils donnent des chiffres parachutés comme ça, c'est inquiétant parce que nous savons qu'il y a quand même quelques cas où des gens ont quitté le Burundi pour subir des entraînements paramilitaires dans les pays voisins. Ils ont été automatiquement déclarés personnes disparues.
L'ambassadeur du Burundi à l'ONU, Albert Shingiro. Au Niger, un millier de présumés combattants du groupe islamiste Boko Haram, poursuivis pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, sont jugés depuis début mars dans des procès à huis clos. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le procureur de la République, Chaibou Samna. Les audiences ont débuté le 2 mars et les prévenus sont des Nigériens, des Maliens et des Nigérians notamment, a déclaré M. Samna à l'AFP. Selon le procureur, les procès vont durer plusieurs mois et concernent surtout des délits et non des crimes dont les peines ne dépassent pas 10 ans de prison. Il y a déjà eu des condamnations et un nombre important de personnes relaxées faute de preuves suffisantes, a précisé Chaibou Samna en ajoutant que certains prévenus avaient écopé de 3 à 9 ans de prison ferme. Les crimes seront jugés ultérieurement par d'autres juridictions, a affirmé le procureur. Boko Haram a mené ses premières attaques au Niger début 2015 et au moins 177 civils ont été tués par le groupe djihadiste entre février 2015 et septembre 2016 à Difa, dans l'extrême sud-est du pays, d'après l'ONU. Au Nigeria voisin, le président Muhammadu Buhari de retour dans son pays aujourd'hui, après 2 mois d'absence à Londres pour raison médicale, a annoncé ce vendredi qu'il laissait les rênes du pouvoir à son vice-président Yemi Osinbajo pour continuer à se reposer. Le chef de l'État, âgé de 74 ans, a fait cette déclaration lors d'une réunion politique sans préciser quand il compte reprendre la direction du pays. Le vice-président Osinbajo dirige le Nigeria depuis le départ du président Buhari à Londres le 19 janvier. Au Burkina Faso, le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, parti du président burkinabé Rochmar Christian Kabore, tient son congrès ce vendredi à Ouagadougou dans une atmosphère tendue. Motif de cette tension, la lutte fratricide que se livrent ses leaders, Arzuma Compaoré.
Depuis son élection, Roch Kaboré a laissé la présidence du parti à Salif Diallo, président de l'Assemblée nationale, qui assure l'intérim. Ténor de la politique burkinabé, longtemps bras droit de l'ancien président Blaise Compaoré, ce dernier est connu pour son franc-parler et son expérience politique. Fondé en 2014 par messieurs Kaboré, Diallo et l'actuel ministre de l'Intérieur, Simon Compaoré, le parti connaît une guerre ouverte. En face, l'opposition a dénoncé un tricéphalisme au sein de l'État en référence au trio fondateur. C'est à un affrontement à peine feutré que les ténors du MPP se livrent, le parti étant plus que jamais divisé en clans dont on voit l'animosité se manifester à tout bout de champ, accuse un membre influent de l'opposition, Alphonse Marie Ouedraogo. Un parti peut vivre ces moments et on croit que c'est la bagarre, que c'est l'implosion. Non, ce n'est pas le cas. Nuance Djedjouma Sanon, membre du bureau politique national du MPP. Plusieurs observateurs voient le président du parti, Salif Diallo, maintenu à la tête du parti à l'issue du congrès, si la charpente du bureau exécutif avec un président est maintenue.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Mauritanie, une nouvelle étape a été franchie dans la révision constitutionnelle. L'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi qui prévoit, entre autres, la suppression du Sénat et le changement du drapeau national. Abdourahmane Dia.
Le texte a été adopté à une écrasante majorité par l'Assemblée nationale, dominée par le parti au pouvoir, malgré une opposition qui a bataillé ferme pour défaire le projet. L'opposition radicale a tenté mardi d'organiser un rassemblement devant le Parlement, mais ses militants, qui portaient des pancartes dénonçant un tripatouillage de la Constitution, ont été dispersés par la police. Elle dénonce une répression aveugle ayant abouti à des blessés parmi ses militants. Seule l'opposition modérée avait pris part aux négociations sur le projet de réforme constitutionnel en septembre et octobre 2016. Le Sénat sera remplacé par des conseils régionaux, tandis que deux bandes rouges, symbolisant le sang versé par les martyrs de la résistance, seront ajoutées au croissant et à l'étoile jaune sur fond vert, figurant déjà sur le drapeau national. Le texte prévoit aussi la suppression de la Haute Cour de justice, du médiateur de la République et du Haut Conseil islamique.
Actualité aux États-Unis maintenant, les mesures migratoires du président Donald Trump commencent à affecter la vie dans les localités frontalières américaines et mexicaines. C'est le cas des villes jumelles de Nogales. Au reportage de Ramon Taylor à Nogales, au Mexique, repris ici par Lionel Gaïma.
Situé de part et d'autre de la frontière entre l'État américain de l'Arizona et celui de Sonoma au Mexique, Nogales, États-Unis, et Nogales, Mexique, sont séparés par une barrière métallique à un point de passage. Elles ont, au fil des ans, développé une riche histoire d'échanges culturels et commerciaux. Leurs maires se connaissent et leurs populations se fréquentent sans problème. Aujourd'hui, l'imminence de l'expulsion massive des sans-papiers mexicains par l'administration Trump fait planer un gros nuage sur ses bonnes relations. D'autant plus que dans l'état de Sonoma, Nogales, Mexique, est le principal centre d'accueil des immigrants expulsés, explique son maire, Remo Galindo. Nous enregistrons en moyenne 50 à 70 expulsés quotidiennement, mais ce chiffre risque de grimper pour atteindre 500 à 700 par jour, une situation que nous avons déjà vécue par le passé. Cela posera d'énormes problèmes, fait remarquer de son côté le journaliste mexicain Ortiz Alon.
Le problème est comment alimenter ça.
Comment alimenter tous ces gens, comment leur trouver des emplois et comment les loger, car tout le monde n'est pas criminel. Ce sont des sans-papiers expulsés qui ont besoin de travailler, de survivre
ici.
Les relations commerciales bilatérales demeurent fortes au niveau local, mais les décisions du président des États-Unis pourraient les compromettre à affecter négativement les investissements américains au Mexique, s'inquiète le maire Temo Galindo. Son homologue John Doyle de Nogales, États-Unis, partage ses préoccupations.
There's a certain fear element out there still hovering up.
Il y a une certaine peur qui plane sur nos deux communautés, particulièrement du côté mexicain. Des gens en règle et qui peuvent franchir la frontière pour leurs achats se demandent maintenant s'ils seront intimidés ou même maltraités, si leurs papiers leur seront arrachés sans raison. L'incertitude n'est jamais bonne pour les affaires. Aussi, les maires de Nogales, États-Unis et Nogales, Mexique, tentent tant bien que mal de préserver leurs bonnes relations de travail face à des lendemains incertains.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.